Allô docteur. Allô docteur, sur Radio Orient.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel pour chaque parent, la méningite, une infection qui touche les membranes entourant le cerveau et la moelle épinière. Certaines formes sont bénignes, d'autres nécessitent une prise en charge urgente. Pour mieux comprendre, nous avons le plaisir d'accueillir encore une fois Dr Mariam Zakaria, allergologue et pédiatre. Merci d'avoir accepté notre invitation, Dr Mariam Zakaria.
Bonjour à tous, chères auditrices et chers auditeurs. Écoutez, c'est un plaisir d'être parmi vous encore aujourd'hui, surtout pour ce sujet qui fait l'actualité en ce moment, avec l'épidémie qu'il y a eu actuellement au Royaume-Uni, qui inquiète beaucoup, à juste titre, les parents. Donc, on va vous rassurer aujourd'hui, puis on va vous informer avec cette petite mise au point sur la méningite.
Merci encore une fois. Dr Mariam Zakaria accompagne depuis des années les enfants et leurs familles. Elle nous aidera aujourd'hui à distinguer les signes d'alerte, à comprendre les différents types de méningite et à rappeler les mesures de prévention. Tout d'abord, Dr Mariam Zakaria, qu'est-ce que la méningite ?
Alors, la méningite, déjà, c'est une infection rare, souvent sévère, et en fait, c'est une inflammation, une infection d'un liquide, ça s'appelle les méninges, c'est le liquide autour des méninges, c'est les membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Quand il y a une infection à cet endroit-là, c'est grave et souvent c'est causé par des virus ou des bactéries. Et bien heureusement, c'est pas une infection qu'on rencontre tous les jours, mais c'est très important de faire le diagnostic et de déceler les premiers signes quand on est parent pour vite pouvoir consulter.
Quels sont les types de méningites les plus fréquents chez l'enfant, docteur ?
Alors heureusement, chez l'enfant, les plus fréquentes, ça reste les méningites virales qui généralement rentrent dans l'ordre avec un traitement symptomatique, mais qui nécessite quand même d'être à l'hôpital, de consulter et d'être pris en charge. Et sinon, les méningites les plus graves, qui ne sont pas les plus fréquentes, c'est les méningites dues à des bactéries. Et elles peuvent être potentiellement très très graves, voire mortelles, voire même provoquer des séquelles. C'est pour ça que c'est important d'avoir les bons réflexes, de savoir repérer quand il faut consulter, parce que justement, dans cette situation, c'est souvent la course contre la montre.
En quoi une méningite virale diffère-t-elle d'une méningite bactérienne ?
Alors le phénomène est assez différent. En ce qui concerne les virus, l'évolution elle est la majorité du temps favorable, sauf dans certains cas, notamment la méningite à herpès, qui elle est très sévère. Mais sinon, ça va rentrer dans l'ordre. Il faut savoir qu'il y a des virus qui vont provoquer des infections ORL ou des gastro, qui peuvent également provoquer des méningites. Dans ce cas-là, le traitement symptomatique va suffire, une réhydratation, du doliprane, surveiller l'absence de signes de gravité, alors que la méningite bactérienne, dans la majorité des cas, si on n'a pas un traitement antibiotique très rapidement et un diagnostic très rapide, souvent ça va être très grave.
Alors quels sont les premiers symptômes qui doivent alerter les parents ?
Alors à tout âge, et après on reviendra sur le cas des nourrissons, pour lesquels c'est un petit peu plus spécifique. Déjà, les signes qui doivent vous alerter, c'est une fièvre très élevée et mal tolérée, avec un enfant ou même un adulte qui n'a pas un comportement habituel, qui est anormalement très fatigué ou avec un état qui se dégrade très vite. On peut également avoir des symptômes de maux de tête très importants, une sensibilité à la lumière et au bruit, ça c'est très important de déceler ce signe-là. Parfois on a des vomissements. Et il y a un des signes qui est assez spécifique de la méningite, c'est la raideur de la nuque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger la nuque sans que ça provoque une très forte douleur. La nuque, elle est toute raide. Parfois également, dans le comportement inhabituel, on peut avoir une somnolence qui est atypique. Alors chez le nourrisson, qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut bien sûr avoir ces signes-là, mais les signes peuvent être un petit peu moins typiques. Déjà, si vous avez une fièvre mal tolérée, il faut immédiatement consulter. Si votre bébé a des convulsions, bien sûr, ou qu'il est difficile à réveiller.
Qu'est-ce que vous voulez dire par une fièvre mal tolérée, docteur ?
Alors, une fièvre mal tolérée, c'est une très bonne question. C'est une fièvre, parfois la fièvre va monter, même à 39-40. Mais l'enfant, quand la fièvre descend, il va sourire, il va continuer à s'alimenter un petit peu et ça va aller pas mal. Une fièvre mal tolérée, c'est un enfant pour lequel la fièvre peut ne pas diminuer et il va rester amorphe, le petit bout de chou. Il va pas être bien du tout, on va avoir du mal à faire diminuer la fièvre et parfois on a des frissons, c'est-à-dire que son petit corps va bouger, il va avoir des tremblements. Attention, quand il y a des tremblements, il faut quand même se poser la question, est-ce que c'est pas une bactérie qui est là? Est-ce que c'est juste une grippe? Mais souvent, il faut quand même avoir un avis médical. Et quand il y a des convulsions, là, bien sûr, c'est un signe d'alerte. Il n'y a pas de contact. Quand il y a une convulsion, il y a des mouvements aussi. On appelle ça tonico-clonique. Et donc, l'enfant bouge de manière anormale. Ça, bien sûr, c'est une urgence absolue. Mais dans le cadre des premiers signes de la méningite, c'est souvent plus frustre. C'est-à-dire un bébé irritable, voire très irritable, très mou, qui ne veut pas s'alimenter, qui pleure de manière bizarre, de manière inhabituelle, qui va geindre, qui va faire des petits bruits inhabituels. Et parfois, on remarque une anomalie chez les tout-petits. Et ça, attention, c'est un signe d'alerte, les parents. C'est les fontanelles bombées. La fontanelle, c'est le petit trou qu'il y a au milieu du crâne, qu'on doit bien sûr pas toucher. C'est ce qui permet à la boîte crânienne de grandir avec l'âge du petit bout de chou. Quand on voit que ça bombe ou que c'est battant au-dessus, attention, ça veut peut-être dire qu'il y a un souci. C'est souvent plus difficile à repérer. Et il y a un signe quand même, même si c'est très rare, c'est un signe qu'il faut vraiment repérer. C'est les boutons sur la peau qui sont plutôt rouges ou violets. Et chez les peaux noires ou foncées, ça peut être violet foncé ou noirâtre. C'est des petites taches qu'on appelle des pétéchies ou du purpura. Et en fait, quand vous appuyez dessus, ça ne s'efface pas.
Alors, quand vous parlez du nourrisson, vous parlez des bébés moins de 6 mois.
Alors, quand je parle du nourrisson, je parle des bébés de moins de 2 ans.
Ah, 2 ans, d'accord.
Et oui, on est un nourrisson jusqu'à 2 ans. D'accord. Et ces petites taches-là, je vous disais, quand on appuie dessus, ça ne s'efface pas. Quoi qu'il arrive, les parents, si un jour vous avez des taches ou des boutons, quand vous appuyez dessus, ça reste rouge, vous pouvez tester avec un verre transparent. Si ça ne s'efface pas, il faut consulter. Et si en plus il y a de la fièvre, là c'est une urgence absolue. Il faut appeler le 15.
Y a-t-il des symptômes trompeurs que les familles ignorent souvent, docteur Mariam Zakaria?
Alors souvent, quand on a de la fièvre, on en avait parlé d'ailleurs lors des infections ORL, une fièvre, c'est le corps qui se défend. En soi, la fièvre, ce n'est pas un mécanisme dangereux. Ce qui est dangereux, c'est la cause. Et c'est pour ça qu'il faut être attentif, il faut se faire confiance, les parents. Vous avez, dans la majorité des cas, vous savez repérer quand il y a un souci. Vous savez repérer quand c'est pas normal et vous nous le dites, docteur, c'est pas comme d'habitude. Donc faites-vous confiance. Et effectivement, quand la fièvre est pas comme d'habitude, il faut savoir se dire, ah, là, il faut peut-être quand même que je vérifie avec le docteur si la fièvre, c'est juste une fièvre d'un petit virus ou si ça peut être le signe d'une autre maladie. Et dans le cadre de la méningite, c'est quand même assez difficile. Vous avez vu les signes qu'on a évoqués ensemble. C'est assez subjectif quand même. Le côté irritable, les pleurs inhabituelles, la grande fatigue, la gêne à la lumière. Ce qui est objectif, c'est la fièvre élevée, les vomissements. Et puis, chez les bébés, ils ne vont pas vous dire qu'ils ont mal à la tête.
Bien sûr, oui.
Alors, c'est quand même plus difficile.
Quels examens sont généralement réalisés pour confirmer une méningite?
Alors, cliniquement, le médecin, quand c'est très grave, il va suspecter la méningite sur l'examen. La raideur de nuque ou d'autres signes. Mais le vrai examen qui va faire le diagnostic, c'est la ponction lombaire. Heureusement, ce n'est pas un examen qu'on fait à tous les enfants qui ont de la fièvre, parce que c'est quand même un petit peu invasif. Ça se fait dans le bas du dos. On prend en fait avec une aiguille un petit peu longue, on va prélever un petit peu de liquide céphalo-rachidien. C'est le liquide qui entoure le cerveau et la moelle épinière. On l'envoie au laboratoire, mais déjà, quand on prélève le liquide, on va déjà voir, est-ce qu'il est clair? On dit clair comme de l'eau de roche, quand a priori il n'y a pas d'infection bactérienne, c'est-à-dire tout clair, transparent. Ou alors, est-ce qu'il y a du sang dedans? Ou alors, est-ce qu'il y a du pu dedans? Donc déjà, quand il y a du pu, c'est que ça ne va pas du tout. Déjà, il faut lancer les antibiotiques en urgence. Par la suite, l'examen, il est envoyé au laboratoire. Il y a une analyse directe et l'analyse, elle va durer quelques jours pour voir un petit peu s'il y a des bactéries qui poussent ou des virus.
Mmh. Alors, comment se traite une méningite selon son origine?
Alors, la méningite virale, elle se traite, c'est le corps qui va guérir en fait tout seul. Sauf quand il y a de l'herpès, on va mettre un traitement anti-herpès, généralement la cyclovir, mais ça reste assez rare. Sinon, tous les autres virus, ça va se traiter par le repos, réhydrate et on surveille l'enfant ou le petit bébé ou l'adulte. Ça va rentrer dans l'ordre. Ça va mettre quelques jours, mais ça va rentrer dans l'ordre. Par contre, la méningite bactérienne va toujours être traitée par des antibiotiques en urgence. Et ça se fait à l'hôpital. Ça ne se fait pas à la maison ou en ville ou chez le cabinet du docteur.
Quels sont les risques ou complications possibles si la prise en charge est tardive?
Alors, la méningite, je vous l'ai dit au début, c'est la course contre la montre. C'est pour ça que c'est hyper important de donner des messages clairs qui puissent être bien retenus par les familles, sans vous paniquer pour rien, mais pour garder des notions fortes. Comme ça, si un jour ça vous arrive, vous savez repérer vite parce que la course contre la montre, c'est justifié dans le cadre des méningites bactériennes. Et si on ne traite pas vite, alors bien sûr, il y a le risque de décès malheureusement. Et sinon, il y a des risques de séquelles neurologiques et également des risques de surdité.
Si on parle des vaccins, quels vaccins protègent contre les formes graves de méningite, Dr Mariam Zakaria?
Alors déjà, il n'y a pas de vaccin contre les virus la méningite.
D'accord. Voilà.
Donc déjà, tout ce qui est viral, on a dit que c'était généralement bénin. On ne peut pas les prévenir. Voilà.
Mais vaccination réduit-elle réellement le risque et complications s'il existe?
Alors en effet, respecter le calendrier vaccinal et vacciner dans le cadre où c'est recommandé, en effet, ça va être très important pour réduire le taux d'infection, mais également diminuer la gravité des infections. Donc c'est un outil de prévention qui est essentiel. Et d'ailleurs, on peut aborder, si vous voulez, le calendrier vaccinal.
Quels conseils pratiques donneriez-vous aux parents pour protéger leurs enfants au quotidien?
Alors avant les conseils pratiques, je vais peut-être vous parler quand même plus des vaccins.
Ouais.
Parce que là, je vous l'ai évoqué je l'ai effleuré, mais je pense que ça mérite que je vous en parle parce que depuis 2025, le calendrier, il a un petit peu changé. Donc, il y a deux types de vaccins. Il y a le vaccin contre la méningite B et le vaccin contre les autres types. Donc déjà, la méningite B, maintenant, c'est obligatoire pour les bébés nés à partir de janvier 2025. Comment ça se passe? Il y a trois doses. Une à l'âge de 2 mois, une à l'âge de 4 mois et un rappel à l'âge de 12 mois. Au-delà des 2 ans, c'est recommandé entre 2 et 5 ans. Mais ce n'est pas obligatoire. Et sinon, au-delà des 5 ans, ce n'est pas recommandé en particulier. C'est au cas par cas. Et qu'est-ce que les recommandations nous disent? Qu'est-ce que les experts nous disent? On peut le proposer entre 15 et 24 ans avec 2 doses espacées d'au moins 1 mois. Mais à partir de 2 ans, il n'y a pas d'obligation à être vacciné contre la méningite B.
On va revenir au message.
Autres types,
excusez-moi, vous n'avez pas fini.
Autres types, il y a un deuxième vaccin.
Oui.
Avant, il y a quelques années, on n'avait que le vaccin contre la méningite C, contre le méningocoque C. Maintenant, le calendrier vaccinal a le vaccin contre la méningite ACWY, donc beaucoup plus efficace contre beaucoup plus de types de méningite. Et depuis 2025, comme pour la méningite B, c'est obligatoire avant l'âge de 2 ans. Comment ça se passe? Il y a deux doses, une à l'âge de 6 mois, une à l'âge de 12 mois. Comme pour la méningite B, c'est recommandé mais pas obligatoire pour les 2-5 ans. Et pour les plus grands, c'est recommandé de 11 à 14 ans. Et de 11 à 14 ans, c'est une seule dose. Et dans le cadre du rattrapage, on peut le faire, mais ce n'est pas obligatoire, entre 15 et 24 ans.
D'accord. Alors, on revient au message. Quel message rassurant, plutôt essentiel, souhaitez-vous adresser aux familles qui nous écoutent aujourd'hui, Dr Mariam Zakaria?
Alors déjà, rassurez-vous, les familles, la méningite, ça fait peur à juste titre. Mais heureusement, c'est une maladie rare, sévère mais rare, qu'on connaît bien, qu'on sait soigner quand elle est diagnostiquée rapidement et qui est évitable grâce à la vaccination et grâce aux mesures de prévention. Quand il y a des épidémies, directement, ça déclenche un plan de prévention, les personnes sont traitées, les personnes exposées vont être traitées. Il faut savoir que la méningite, ça ne s'attrape pas aussi facilement qu'un petit virus banal de rhume. Il faut quand même un contact rapproché, un contact de type gouttelette. Et en cas de doute, bien sûr, on consulte. Mieux vaut consulter pour être rassuré qu'un retard de prise en charge, surtout que dans le cadre de la méningite, plus on agit vite, plus on guérit et moins il y a un risque de séquelles.
Donc, il ne faut pas prendre à la légère la fièvre chez les nourrissons, surtout, docteur, n'est-ce pas?
Alors, chez les tout-petits de moins de 3 mois, la fièvre, il faut généralement consulter. Alors, avant l'âge de 1 mois, il faut consulter de manière systématique. Fièvre avant 1 mois, consulter de manière systématique. Et sinon, quand on a des signes d'inquiétude qu'on a évoqués tout à l'heure, il faut consulter chez le nourrisson, donc le moins de 2 ans. Et pour tout le monde, les enfants, les adultes, quand on a des signes d'alerte, la fièvre élevée, les maux de tête très intenses avec la fièvre, des vomissements, la gêne à la lumière et au bruit, la raideur de nuque, la somnolence, les troubles du comportement, oui, il faut consulter en urgence.
Merci beaucoup, docteur Mariam Zakaria. En résumé, la méningite est une maladie sérieuse qui touche les méninges, ces enveloppes essentielles qui protègent notre cerveau. Elle peut être virale, souvent bénigne ou bactérienne, plus rare, mais nécessitant une prise en charge urgente, comme vous l'avez signalé à plusieurs reprises. Dans tous les cas, reconnaître les symptômes tôt et consulter rapidement reste la meilleure protection. Informer, prévenir et réagir à temps, c'est ce qui permet de sauver des vies. Merci beaucoup, docteur Mariam Zakaria.
Avec grand, grand plaisir et prenez soin de vous.
Merci, au revoir.
Allô, docteur. Allô, docteur, sur Radio Orient.